Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs artistes des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, voici donc le journal de la Voix d'Indonésie. Nous commençons avec les titres. L'histoire de la nation est une forme de soft power. Le ministre Arif Yahya encourage la déréglementation du tourisme maritime. Le ministère des Finances continue à surveiller les actifs des citoyens à Singapour. Le président Jokowi développe des villages autour du lac Toba pour être la zone touristique. L'industrie textile nationale est susceptible d'élargir les marchés d'exportation. Et enfin, les vols directs pourraient encourager la visite des touristes de l'Inde. Voici le journal complet. L'histoire de la nation est une forme de soft power qui joue un rôle important dans la diplomatie, à la fois en Inde et en Indonésie. Cela a été dit par l'ambassadeur de l'Inde à l'Indonésie, Nengcha Luvum Mukhopadhyaya, en mars dans talk show « Jeune et la diplomatie créative, la voix indonésienne ». Pour commémorer l'anniversaire du ministère des Affaires étrangères à Senayan City Mall, Jakarta, dimanche le 21 août 2016.
And I think India is a good example of soft power. If you look around here.
Et je pense que cela est un bon exemple de la puissance douce si vous regardez en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie. Vous savez, vous voyez une très longue manifestation historique, la terminologie sanscrite, le Mahabharata, le Ramayana et le fait que les enseignements de l'Inde et bouddhistes sont venus d'une part et d'affecter d'autres parties du monde. Il y a des milliers d'années, tout c'est une forme de soft power. L'ambassadeur Nengcha Luvum a également ajouté que cela peut être utilisé comme référence pour le concept de soft power et la mise en œuvre de la diplomatie aujourd'hui. La puissance douce est née au milieu de la société, se propager et finalement affecter beaucoup de choses sans ingérence de l'État. Le gouvernement indonésien a lancé Hari Nusantara ou la Journée d'Archipel le 13 décembre 2016, lundi à Jakarta. La commémoration de la Journée d'Archipel aura lieu en résidence de Lembata, Nusa Tenggara Est. La Journée d'Archipel 2016 a pour thème « Bonne gestion de l'archipel maritime potentiel vers l'axe maritime du monde ». Le lancement a été assisté par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, le ministre du Tourisme, Arif Yahya, le ministre du Village des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Eko Putro Sanjoyo, et le gouverneur de Nusa Tenggara Est, Frans Leburaya. Dans son discours, le ministre Arif Yahya a dit que l'Indonésie a un fort potentiel de tourisme maritime, mais il ne peut pas être encore utilisé pour produire des devises pour le gouvernement. Par conséquent, il a encouragé la déréglementation à augmenter les performances du secteur du tourisme, en particulier le tourisme maritime.
Potensinya hebat, tapi performansinya sangat.
L'Indonésie a du potentiel, mais le tourisme maritime n'a pas bien fonctionné. Si la performance de l'entreprise ou de l'industrie est mauvaise, il est plus probable en raison de la déréglementation. L'Indonésie devrait faire la déréglementation massive dans le tourisme maritime. Par ailleurs, le ministre du Tourisme Arif Yahya a expliqué qu'actuellement, le tourisme maritime d'Indonésie contribue les revenus à 1 milliard roupiah, soit environ 80 000 dollars américains pour le pays. Il cible le secteur de tourisme maritime produira 4 milliards de dollars de fonds de réserve en 2019. Il a également souligné que la déréglementation du secteur du tourisme maritime facilitera les touristes étrangers à visiter l'Indonésie. D'ailleurs, a-t-il ajouté, il permettra à l'investissement étranger pour entrer dans le secteur du tourisme maritime de l'Indonésie. Le ministère des Finances continuera de surveiller les actifs des citoyens indonésiens à Singapour après que ce pays soit devenu le plus grand contributeur des actifs dans la déclaration à l'étranger et le rapatriement de l'amnistie fiscale jusqu'au 20 août 2016. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, a déclaré dans une conférence de presse sur le développement de l'amnistie fiscale lundi à Jakarta que le gouvernement de Singapour a exprimé leur soutien à la mise en œuvre de l'amnistie fiscale. Selon Sri Mulyani, elle a déjà communiqué avec le ministère des Finances de Singapour pour vérifier les politiques à la fois du gouvernement et de la banque qui est associée à l'amnistie fiscale en Indonésie. D'après les données du ministère des Finances, Singapour a continué 42% de la composition des actifs étrangers et le rapatriement de l'amnistie fiscale, dont 18,5% d'entre eux ont été rapatriés. Le montant de l'amnistie fiscale à Singapour, qui a été déclaré de 4,79 trillions roupiah, et le rapatriement de 1,086 trillions roupiah. Le ministère des Finances continue à rapatrier des fonds en dehors du pays parce que des fonds de rapatriement peuvent être utilisés pour le développement indonésien. Le président Joko Widodo développera la zone touristique autour du lac Toba. L'une des régions qui seront utilisées en tant que région touristique est le village de Parulohan, la résidence de Humbang Hasundutan, Sumatra du Nord. Le président Joko Widodo a dit lundi au village de Parulohan que cette région pouvait être utilisée pour les jardins de fleurs et ajouté un hôtel pour une réunion qui a l'impact économique sur l'environnement. Selon le président, le gouvernement améliorera cette région si elle a été décidée en tant que région touristique du lac Toba. Le gouvernement développera et fera le reboisement autour du site. Selon le président, l'Indonésie peut offrir beaucoup de choses à travers le site touristique. En plus du paysage naturel, la région a le potentiel pour le tourisme historique. L'industrie de textile et les produits textiles, ou TPT, ont l'opportunité d'élargir le marché d'exportation dans divers pays dans le monde, parce que la part de marché de l'industrie textile d'Indonésie vient d'atteindre 2% du marché mondial du textile. Le directeur général d'industrie chimique, textile et diverse du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Diwahyono, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi que les opportunités de marché à l'exportation étaient ouvertes pour l'industrie textile nationale. Sigit a expliqué que l'industrie textile nationale qui était capable de produire des produits de haute qualité, la conception récente et la capacité d'approvisionnement rapide aura une plus grande opportunité d'atteindre le marché mondial. Il a ajouté, selon les données du ministère de l'Industrie, la performance de l'exportation de l'industrie textile nationale au cours des 5 dernières années a connu une croissance moyenne de 2,28% avec une valeur d'exportation de 12,28 milliards de dollars en 2015. Cette performance est un peu mieux que la performance d'exportation nationale d'environ 4,69% et les exportations non pétrolières qui se sont élevées à 8,92%. Il est inséparable du travail dur du gouvernement avec tous les acteurs de l'industrie textile dans le pays afin de résister à la concurrence mondiale qui est de plus en plus nette. Le ministère du Tourisme évalue la présence d'un vol direct de l'Inde à l'Indonésie et vice-versa pourrait augmenter le nombre d'arrivées des touristes de ce pays. Le chef de la division du festival L'Art et la Culture de l'assistant adjoint du développement du marché d'Asie et du Pacifique du ministère du Tourisme, Dodi Prianto à Kolkata en Inde, a déclaré lundi que le principal défi est le vol direct parce que le vol qui vient d'exister est le vol de transit de et à l'Inde. Il a dit, il devrait n'y avoir aucun problème avec les vols suivants parce que le coût n'est plus cher et le temps d'attente au transit aéroportuaire ne prend plus longtemps. À ce jour, qui est fait par le ministère du Tourisme pour encourager la visite des touristes de l'Inde et de promouvoir activement ainsi que d'autres activités culturelles dans ce pays. Chers éditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sixième longtemps, pour la suite suivante, voici donc le commentaire et pour le titre, les points chauds plus inquiétants. Récemment, les deux satellites de l'Agence spatiale des États-Unis, NASA, à savoir Terra, ont détecté 365 points chauds à Sumatra. La plupart de 178 points chauds étaient concentrés sur la province de Riau. Ce cas se produit souvent lors de l'entrée de la saison sèche et il devrait être géré de manière professionnelle. Mais il est toujours en course et on soupçonne qu'il y a quelqu'un qui joue derrière les incendies de terre et de la forêt. La police de Rio, qui fait partie d'un groupe de travail de l'application de la loi d'incendie des forêts et des terres, avait fixé 85 suspects incendiaires des terres au cours de janvier à août 2016. La cause des incendies de forêt qui ont eu lieu il y a quelques temps sont les incendiaires d'État qui sont d'ailleurs les grandes entreprises dont la plupart est domicilée en Malaisie. Malheureusement, il semble que la loi dans le pays n'a pas été en mesure d'agir de manière décisive, si bien qu'elle ne provoque pas un effet dissuasif. L'Indonésie est le plus grand pays producteur d'oxygène dans le monde. Le pays est même surnommé comme les poumons du monde. Mais ironiquement, l'Indonésie contribue aussi à la grave pollution atmosphérique à travers la fumée à cause des incendies des forêts qui affectent d'autres pays. En effet, comme a été mentionné précédemment, dans ce cas, l'Indonésie n'est pas entièrement coupable parce que les grandes entreprises dans les pays voisins prennent également part aux incendies de forêts. Mais indéniablement, les incendies des terres et des forêts avec des effets de fumée se produisent en Indonésie et sont ressentis par les pays voisins. Le gouvernement indonésien doit agir de manière plus décisive contre les auteurs des incendies de forêt de l'Indonésie et de l'étranger. Si le problème est autorisé à faire glisser, il est susceptible de perturber les relations avec les pays voisins. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 23 août 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique ont signé le traité de non-agression à Moscou. Le pacte signé par le ministre des Affaires étrangères allemand Joachim von Ribbentrop et soviétique Vyacheslav Molotov en présence de Staline. Ce pacte réglemente également que les deux parties restent neutres dans une situation où l'un des signataires du parti du pacte est attaqué et doit se battre avec des éléments étrangers. Mais l'Allemagne a violé le pacte de non-agression avec le lancement de l'opération Barbarossa le 21 juin 1941 afin d'envahir la Russie. Le le 23 août 1949 une conférence de la table ronde s'est tenue à La Haye aux Pays-Bas. C'est une réunion entre les représentants du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Indonésie, du 23 août jusqu'au 2 novembre 1949. L'effort pour étouffer l'indépendance de l'Indonésie par la violence se termine en échec. Les Pays-Bas ont reçu de sévères critiques de la communauté internationale. Les Pays-Bas et l'Indonésie ensuite ont tenu plusieurs réunions pour résoudre ce problème par la diplomatie, par la négociation Linggarjati, l'accord Renville, l'accord Rung Van Rooyen et la table ronde. Les résultats d'une conférence de la table ronde sont entre autres le transfert de souveraineté du gouvernement colonial néerlandais à la République des États Indonésie, à l'exception Papouasie occidentale. L'Indonésie veut toutes les traces de l'Indie orientale néerlandaise sont devenues la région indonésienne, tandis que le Pays-Bas veut faire la Papouasie occidentale un État séparé en raison des différences ethniques. Conférence a été fermée sans une décision sur cette question. Par conséquent, l'article 2 stipule que la Papouasie occidentale ne faisait pas partie du transfert et que ce problème sera résolu dans un an. Le 23 août 1998, la fondation du Parti Amanat National ou le Parti du Mandat de la Nation. Le Parti du Mandat de la Nation est habituellement associé au mouvement de réforme. Il a été déclaré à Jakarta le 23 août 1998 par 50 dirigeants nationaux, entre autres l'ancien président de Muhammadiyah, professeur Dr. Haji Amin Rais, Gunawan Muhammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli et professeur Dr. Emil Salim. PAN vise à respecter la souveraineté populaire, la justice, le progrès matériel et spirituel. Les idées du parti enracinées dans morale religieuse, humanitaire et pluralisme. PAN adhère au principe de non-sectaire et non-discriminatoire. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie insiste la Turquie à expliquer la raison de l'arrestation de deux étudiantes indonésiennes ». Le gouvernement indonésien continue de donner la protection maximale aux citoyens indonésiens à l'étranger qui ont été des problèmes avec la loi. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, citée par Kompas le vendredi 19 août, a déclaré que le ministère des Affaires étrangères a demandé au gouvernement turc de respecter les droits juridiques des deux étudiantes indonésiennes qui ont été détenues par les autorités locales. Le gouvernement indonésien a demandé à la Turquie de donner des explications sur l'arrestation et l'accusation contre deux étudiantes universitaires. Deux étudiantes indonésiennes ont été arrêtées par les forces de sécurité turques le 11 août 2016 dans leur maison à Bursa. La première étudiante avec l'initiale DP, l'origine de Mac Java Central, une autre personne avec l'initiale Yeu provient d'Aceh. Tous les deux ont été arrêtés pour des liens présumés avec un réseau de Fethullah Gulen qui est vanté comme un coup d'acteur intellectuel contre le gouvernement du président Erdogan. L'observateur de Moyen-Orient de l'Université d'Indonésie, Yon Mahmoudi, a déclaré que le gouvernement devrait prendre des mesures anticipatives contre un éventuel de l'arrestation d'autres citoyens indonésiens en Turquie. Compte tenu de la détérioration des relations entre le président Recep Tayyip Erdogan, esong adveser politik Fethullah Gulen. Mahmoudi a Jakarta lelandi 22 août a déclaré que l'arrestation des deux étudiantes indonésiennes en Turquie, qui étaient soupçonnées d'être liées à l'activité de Gulen en Turquie, devait être une préoccupation majeure pour le gouvernement indonésien. Le gouvernement turc a officiellement marqué le groupe Gulen comme une organisation terroriste et l'a appelé FETO ou organisation terroriste Fethullah Gulen. Selon Yon Mahmoudi, le problème n'est pas sur le pour et le contre de la désignation FETO, mais de sauver les citoyens qui étudient en Turquie sur les bourses de Gulen. Il y a environ 200 étudiantes indonésiennes qui ont reçu des bourses de l'institution financée par le groupe Gulen. La bonne politique est d'enregistrer et de le déplacer vers des droits qui sont plus neutres pour la durabilité de leurs études qui ont reçu une bourse d'études du groupe Gulen. Des mesures anticipatives doivent être prises pour protéger les citoyens indonésiens afin de ne pas compétrer dans le problème interne de la Turquie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Arman Tanasir, a déclaré qu'il n'y avait pas encore de confirmation et l'indication de l'implication des deux étudiantes indonésiennes qui étaient arrêtées par les forces de sécurité turques dans la capitale Ankara, dans le groupe Gulen. Arman Tanasir a déclaré à Jakarta vendredi que l'enquête sur les deux étudiantes sont encore en cours. Elles sont les étudiants en Turquie grâce à une bourse d'une organisation non gouvernementale d'origine turque nommée l'Association de la solidarité sociale et économique des pays pacifiques, ou PASIAT. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'histoire de la nation est une forme de soft power qui joue un rôle important dans la diplomatie à la fois en Inde et en Indonésie. Cela a été dit par l'ambassadeur de l'Inde à l'Indonésie, Nengca Luvum Mukhopadhyaya, en mars dans talk show « Jeunes et la diplomatie créative, la voix indonésienne ». Pour commémorer l'anniversaire du ministère des Affaires étrangères à Senayan City Mall, Jakarta, dimanche le 21 août 2016.
And I think India is a good example of soft power. If you look around here,
et je pense que cela est un bon exemple de la puissance douce si vous regardez en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie. Vous savez, vous voyez une très longue manifestation historique, la terminologie sanskrite, le Mahabharata, le Ramayana et le fait que les enseignements de l'Inde et bouddhiste sont venus d'une part et d'affecter d'autres parties du monde. Il y a des milliers d'années, tout c'était une forme de soft power. L'ambassadeur Nengca Luvum a également ajouté que cela peut être utilisé comme référence pour le concept de soft power et la mise en œuvre de la diplomatie aujourd'hui. La puissance douce est née au milieu de la société, se propager et finalement affecter beaucoup de choses sans ingérence de l'État. Le gouvernement indonésien a lancé Hari Nusantara ou la Journée d'Archipel le 13 décembre 2016, lundi à Jakarta. La commémoration de la Journée d'Archipel aura lieu en résidence de Lembata, Nusa Tenggara Est. La Journée d'Archipel 2016 a pour thème « Bonne gestion de l'archipel maritime potentiel vers l'axe maritime du monde ». Le lancement était assisté par le ministre de l'Intérieur, Cahyo Kumolo, le ministre du Tourisme, Arif Yahya, le ministre du Village des Régions Défavorisées et de la Transmigration, Eko Putro Sanjoyo, et le gouverneur de Nusa Tenggara Est, Frans Lebu Raya. Dans son discours, le ministre Arif Yahya a dit que l'Indonésie a un fort potentiel de tourisme maritime, mais il ne peut pas être encore utilisé pour produire des devises pour le gouvernement. Par conséquent, il a encouragé la déréglementation à augmenter les performances du secteur du tourisme, en particulier le tourisme maritime.
Potensinya hebat, tapi performansinya sangat
L'Indonésie a du potentiel, mais le tourisme maritime n'a pas bien fonctionné. Si la performance de l'entreprise ou de l'industrie est mauvaise, il est plus probable en raison de la déréglementation. L'Indonésie devrait faire la déréglementation massive dans le tourisme maritime. Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a expliqué qu'actuellement, le tourisme maritime d'Indonésie contribue les revenus à 1 milliard roupiah, soit environ 80 000 dollars américains pour le pays. Il cible le secteur de tourisme maritime produira 4 milliards de dollars de fonds de réserve en 2019. Il a également souligné que la déréglementation du secteur du tourisme maritime facilitera les touristes étrangers à visiter l'Indonésie. D'ailleurs, a-t-il ajouté, il permettra à l'investissement étranger pour entrer dans le secteur du tourisme maritime de l'Indonésie. Le ministère des Finances continuera de surveiller les actifs des citoyens indonésiens à Singapour après que ce pays soit devenu le plus grand contributeur des actifs dans la déclaration à l'étranger et le rapatriement de l'amnistie fiscale jusqu'au 20 août 2016. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, a déclaré dans une conférence de presse sur le développement de l'amnistie fiscale lundi à Jakarta que le gouvernement de Singapour a exprimé leur soutien à la mise en œuvre de l'amnistie fiscale. Selon Sri Mulyani, elle a déjà communiqué avec le ministère des Finances de Singapour pour vérifier les politiques à la fois du gouvernement et de la banque qui est associée à l'amnistie fiscale en Indonésie. D'après les données du ministère des Finances, Singapour a continué 42% de la composition des actifs étrangers et le rapatriement de l'amnistie fiscale, dont 18,5% d'entre eux ont été rapatriés. Le montant de l'amnistie fiscale à Singapour, qui a été déclaré de 4,79 trillions roupiah, et le rapatriement de 1,086 trillions roupiah. Le ministère des Finances continue à rapatrier des fonds en dehors du pays parce que des fonds de rapatriement peuvent être utilisés pour le développement indonésien. Le président Joko Widodo développera la zone touristique autour du lac Toba. L'une des régions qui seront utilisées en tant que région touristique est le village de Paruluhan, la résidence de Humbang Hasundutan, Sumatra du Nord. Le président Joko Widodo a dit lundi au village de Paruluhan que cette région pouvait être utilisée pour les jardins de fleurs et ajouté un hôtel pour une réunion qui a l'impact économique sur l'environnement. Selon le président, le gouvernement améliorera cette région si elle a été décidée en tant que région touristique de lac Toba. Le gouvernement développera et fera le reboisement autour du site. Selon le président, l'Indonésie peut offrir beaucoup de choses à travers le site touristique. En plus du paysage naturel, la région a le potentiel pour le tourisme historique. L'industrie de textile et les produits textiles, ou TPT, ont l'opportunité d'élargir le marché d'exportation dans divers pays dans le monde, parce que la part de marché de l'industrie textile d'Indonésie vient d'atteindre 2% du marché mondial du textile. Le directeur général d'industrie chimique, textile et diverse du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Diwahyono, dans un communiqué de presse, a déclaré lundi que les opportunités de marché à l'exportation étaient ouvertes pour l'industrie textile nationale. Sigit a expliqué que l'industrie textile nationale, qui était capable de produire des produits de haute qualité, la conception récente et la capacité d'approvisionnement rapide, aura une plus grande opportunité d'atteindre le marché mondial. Il a ajouté, selon les données du ministère de l'Industrie, la performance de l'exportation de l'industrie textile nationale au cours des 5 dernières années a connu une croissance moyenne de 2,28% avec une valeur d'exportation de 12,28 milliards de dollars en 2015. Cette performance est un peu mieux que la performance d'exportation nationale d'environ 4,69% et les exportations non pétrolières qui se sont élevées à 8,92%. Il est inséparable du travail dur du gouvernement avec tous les acteurs de l'industrie textile dans le pays afin de résister à la concurrence mondiale qui est de plus en plus nette. Le ministère du Tourisme évalue la présence d'envols directs de l'Inde à l'Indonésie et vice-versa pour augmenter le nombre d'arrivées des touristes de ce pays. Le chef de la division du festival L'Art et la Culture de l'assistant adjoint du développement du marché d'Asie et du Pacifique du ministère du Tourisme, Dodi Prianto à Kolkata en Inde, a déclaré lundi que le principal défi est le vol direct parce que le vol qui vient d'exister est le vol de transit de et à l'Inde. Il a dit: il devrait n'y avoir aucun problème avec les vols suivants parce que le coût n'est plus cher et le temps d'attente au transit aéroportuaire ne prend plus longtemps. À ce jour, qui est fait par le ministère du Tourisme pour encourager la visite des touristes de l'Inde et de promouvoir activement ainsi que d'autres activités culturelles dans ce pays. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la boucle suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, nous vous révélons dans le programme Zona Indonesia. Aujourd'hui, nous vous invitons à un tour vers Sulawesi du Sud-Est. Alors, restez avec nous ici à RRI World Service, Voix de l'Indonésie. Outre par ondes courtes, vous pouvez également écouter notre émission via streaming audio sur www.voi.co.id. Le district de Buton Central est l'un des nouveaux districts autonomiques à Sulawesi du Sud-Est qui possède plusieurs potentiels économiques. Parmi eux sont dans les domaines agricoles, maritimes, minières, autant que les domaines touristiques qui est aussi compétitif que d'autres régions à Sulawesi du Sud-Est. Sur le secteur du tourisme, le district de Buton Central possède des endroits touristiques qui sont récemment connus comme la plage Katembe, plage Mutiara, plage Marlboro, et puis la grotte Maobu, grotte Gumanano, grotte Loba-Loba, etc. Parmi ces endroits, la plage Mutiara qui se trouve au village de Gumanano dans le quartier de Mawasanka est récemment sous le développement pour introduire la plage au public comme l'endroit touristique supérieur du district de Buton Central. Chers écouteurs, Gumanano est un village appartenant au quartier de Mawasanka. On peut atteindre ce village après 84 km de voyage du port Wamankoli. Pour visiter la plage Mutiara, on doit tout d'abord arriver au village Gumanano. Ce village est relativement isolé, donc votre voyage sera un peu difficile. Vous pouvez commencer votre expédition vers ce village dans le centre-ville de Labunkari, la capitale du district de Buton Central. Vous pouvez atteindre ce district à partir de la ville Baobao en bateau ferry. Baobao est une ville accessible en prenant l'avion de Jakarta via Kendari pour la durée d'environ 3 heures avant de prendre le jet fuel ou bateau de vitesse pour 5 heures. En arrivant à la plage Mutiara, c'est garanti que vous serez étonné par la beauté. Imaginez, le sable blanc étendu presque au long de la côte. La plage Mutiara aurait plus belle quand la mer coule, car le sable blanc va étendre. De plus, l'eau de la mer est toujours bleue et claire. Pas étonnant si la plage devient un excellent tourisme de Bouton Central. Il y a beaucoup de touristes qui y viennent pour prendre des photos de la nature de cette plage en tant que la souvenir. Et bien sûr, ils vont aussi nager sur la mer étant très clair. Outre par nager, si vous aimez pêcher, vous pouvez le faire sur cette plage. À la plage Mutiara, il existe beaucoup de types de poissons. Après avoir passé quelques moments à Mutiara, vous devriez aller à d'autres parts de ville Gumanano. Dans ce village, il existe une forteresse héritée par le sultanat de Bouton qui s'appelle la forteresse Lasayidewa. Cette forteresse possède 7 grands lawas ou portes. Puis, vous pouvez se baigner dans le lieu de baignade de Gumanano dont l'eau est fraîche mais un peu saumâtre. Il existe de nombreuses fontaines naturelles dans ce village, comme Oerada et Oemawonti. Pour ceux qui aiment la culinaire, vous allez aimer Kuku, un genre de moule verte. Chers amis, voilà Pesona Indonesia d'aujourd'hui dont le sujet est la plage Mutiara. Nous vous reverrons demain avec des sujets aussi intéressants dans la prochaine édition de Pesona Indonesia. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est hujan, ou en français, la pluie. Allons-y. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot deux fois et vous le répéterez après. Tadi malam. Tadi malam. En français, le soir dernier. Hujan lebat. Hujan lebat. En français, il pleut fort. Grimis. Grimis. En français, la bruine. Lama. Lama. En français, longtemps. Merata. Merata. En français, partout. Tempat. Tempat. En français, la place. Banjir. Banjir. En français, l'inondation. Lalu lintas. Lalu lintas. En français, la circulation. Macet. Macet. En français, l'embouteillage. Beruntung. Beruntung. En français, avoir de la chance. Di rumah. Di rumah. En français, à la maison. Teman. Teman. En français, l'ami. Bandara. Bandara. En français, l'aéroport. Memerlukan waktu. Memerlukan waktu. En français, prendre du temps. Lima jam. Lima jam. En français, 5 heures. Satu setengah jam. 1,5 jam. En français, 1h30. Siap. Siap. En français, prêt ou prête. Kelaparan. Kelaparan. En français, avoir faim. Kehausan. Kehausan. En français, avoir soif. Cuaca. Cuaca. En français, la météo. Panas. Panas. En français, chaud. Curah hujan. Curah hujan. En français, la chute de pluie. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation intitulée « La pluie ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Danou et Bayou au bureau. Bayou, apakah tadi malam di tempat kamu hujan lebat? Bayu, apakah tadi malam di tempat kamu hujan lebat? Bayu, est-ce qu'il pleuvait à ton place ce soir dernier? Di tempat saya hujan lebat. Di tempat saya hujan lebat. Il pleuvait d'écorce chez moi. Ya, setelah itu gerimis cukup lama. Oui, après il y avait des bruines assez longtemps. Sepertinya hujannya merata. Apparemment, il pleuvait partout. Ya, banyak tempat yang banjir. Ya, banyak tempat yang banjir. Oui, l'inondation est aussi partout. Sehingga lalu lintas macet di mana-mana. Sehingga lalu lintas macet di mana-mana. Ça fait d'embouteillage en tout lieu. Beruntung sebelum hujan lebat saya sudah di rumah. Beruntung sebelum hujan lebat saya sudah di rumah. J'ai de la chance d'être arrivé chez moi avant la pluie. Teman saya dari bandara ke rumahnya memerlukan waktu 5 jam. Teman saya dari bandara ke rumahnya memerlukan waktu 5 jam. Mon ami a pris 5 heures pour rentrer chez soi de l'aéroport. Padahal biasanya hanya sekitar 1,5 jam. Padahal biasanya hanya sekitar 1,5 jam. Quand l'habitude, ça fait seulement 1h30. Oleh karena itu, kita harus selalu siap makanan kecil dan minuman di dalam tas. Oleh karena itu, kita harus selalu siap makanan kecil dan minuman di dalam tas. C'est pourquoi on doit être toujours prêt à porter des snacks ou boissons avec nous. Sehingga kita tidak kelaparan dan kehausan di jalan. Sehingga kita tidak kelaparan dan kehausan di jalan. Donc on n'a pas faim ni soif tout en voyageant. Apalagi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. Apalagi akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. De plus, le temps est incertain récemment. Bisa panas sekali dan kemudian hujan. Bisa panas sekali dan kemudian hujan. Il fait très chaud un moment et il pleut à l'autre. Betul sekali. Betul sekali. Vraiment correct. Voilà cette édition de Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Nous vous reverrons demain avec un sujet différent. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur www.voi.co.id ou à travers notre amateur à onde courte sur 9525 kHz. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse de dangdut de l'Indonésie, Mirna Wati. Pour ouvrir notre rencontre, voici Mirna Wati avec sa chanson intitulée « Cri du cœur ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Mirna Wati intitulée « Cri du cœur » lancée en 1987 et était dans l'album intitulé « Rideau d'amour ». Cette chanson composée par Maggie Z raconte le sentiment d'une personne qui est blessée à cause de son amant. À travers cette chanson triste, le nom Mirna Wati était bien connu dans la scène musicale de Dangdut dans le pays. Depuis ce moment, les chansons mélancoliques sont devenues la marque de Mirna. Lorsqu'elle chante des chansons tristes, Mirna possède l'interprétation totale. Voilà, c'est la force réelle de Mirna. Ce réditeur est en mettant la chanson suivante de Mirna Wati intitulée « Comportement ». Bonne écoute.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs artistes, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.